Pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Les faits se déroulent le 26 juillet 2016, quelques jours après une série d'attaques terroristes islamistes en Europe et en France notamment le 14 juillet à Nice, où 86 personnes sont tuées sur la promenade des Anglais. Nous sommes à Saint-Étienne-du-Rouvray, commune normande de 30 000 habitants environ, dans la périphérie de Rouen. Ce matin-là, deux jeunes hommes islamistes radicalisés pénètrent dans l'église et assassinent sauvagement le père Jacques Hamel de 48 coups de couteau. Ils ont également contraint un paroissien à filmer la scène avec leur téléphone. À 8h30 le matin, l'un d'eux, Adèle Kermich, avait écrit sur la chaîne Telegram « Téléchargez ce qui va venir et partagez-le en masse ». Les deux hommes prennent ensuite trois autres fidèles en otage avant d'être abattus par les forces de l'ordre. L'attentat est rapidement revendiqué par l'organisation État islamique. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, on ne vous raconte pas plus en détail ce qui s'est passé ce jour-là. On n'essaie pas non plus de comprendre comment ces deux garçons ont pu en arriver à commettre une telle barbarie. On s'intéresse à leurs proches, et particulièrement à la mère de l'un d'eux et à la sœur du prêtre. Car quelque temps après cette attaque atroce qui les a terrassées toutes les deux, il s'est passé entre elles une chose à laquelle aucune des deux ne s'attendait et qui semblait a priori difficile à imaginer. Tout de suite donc, Roselyne et Nacera, une amitié impensable.
Je m'appelle Nacera, j'ai 62 ans. Je suis arrivée à Saint-Étienne-du-Rouvray, j'avais 9 mois. Donc j'ai toujours vécu dans cette ville. Je suis enseignante en lycée professionnel et j'enseigne la biotechnologie. Et en fait, Adèle, c'était le dernier de la fratrie. C'était un enfant très vivant, qui courait partout. Et puis, petit à petit, bon, il bougeait beaucoup à l'école, il restait pas en place. Donc, on a diagnostiqué de l'hyperactivité. Il a été traité pour cette hyperactivité, mais c'était des médicaments qui étaient pas très, très adaptés à un enfant de 6 ans. Et voilà. Et petit à petit, ça s'est mal passé à l'école parce que, il était pas concentré, il était pas, il perturbait la classe. Et à un moment, au collège, il a été mis dehors. Et c'est ça qui fait que, il s'est retrouvé après en institut thérapeutique pour son hyperactivité. Il y est resté 3 ans et demi. Donc, c'était très long. Et pour nous et pour lui, Et donc, il est sorti en 2013. Il avait 16 ans. Il a réussi à intégrer un premier lycée où ça n'a pas marché, puis un deuxième lycée où ça n'a pas marché à nouveau, toujours à cause de son hyperactivité qui était toujours là. Et il s'est retrouvé le nez dans le ruisseau sans rien du tout, quoi. En février 2015, il m'annonce qu'il veut faire la prière. Donc, en tant que musulmans, faire la prière, c'est tout à fait normal. Je me suis dit, tant mieux. Ça va peut-être l'apaiser, ça va peut-être... pour moi, c'était quelque chose de bien. Et puis, à un moment, il commence à nous dire, je veux aller en Syrie. Voilà, nous, on lui disait non, en pensant que il pouvait pas partir comme ça. Et puis, un jour, il y a ma fille qui trouve dans ses affaires un plan pour se rendre en Turquie. Et dans cette ville-là, il y avait des passeurs qui permettaient de passer la frontière et d'aller en Syrie. Et donc, j'ai demandé à mes enfants de venir. Il y avait mon mari. Tout le monde était là pour essayer de le dissuader en lui disant « Mais Adèle, tu vas aller faire quoi là-bas » On l'a pas lâché. Et en même temps, on avait appelé la commissaire de Saint-Étienne-du-Rouvray. On lui a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et elle me dit, mais vous inquiétez pas, Madame Kermich, on va mettre en place une interdiction de sortie de territoire. Moi, le lendemain, je travaillais, donc je me réveille de très bonne heure. Et là, j'arrive dans la chambre d'Adèle, personne. Donc, j'appelle la commissaire. Je lui dis, voilà, Adèle est partie. Elle fait, vous inquiétez pas, on lance un avis de recherche. Donc, on l'a retrouvée en Allemagne. Son papa est allé le chercher. Mais sauf qu'en arrivant à la maison, il n'y avait rien de mis en place, quoi. Donc, pendant un mois et demi, il a été tranquille. Et puis, au bout d'un mois et demi, il recommence. Et cette fois, il repart beaucoup plus loin parce qu'ils l'ont arrêté en Turquie. Et ils l'ont mis en prison en France pendant 10 mois. Je lui rends visite en prison. Je trouve ça bizarre parce qu'il me parle de co-détenus qui reviennent de Syrie, qui ont essayé de faire des attentats, qui lui apprennent des choses, tout ce qui concernait la religion, en fait. Mais la religion, comme ils la voyaient, eux. C'est-à-dire idéologie où il faut tuer tous ceux qui sont pas musulmans, tous les autres sont des mécréants, pas, même nous, on était des mécréants parce qu'on n'était pas musulmans comme eux. Enfin, voilà. Donc, il ressort de là, pire que quand il est entré. Il est sorti en mars 2016. Donc, il était avec son bracelet électronique à la maison. Donc, c'était compliqué parce que pour faire des démarches, pour chercher du travail, pour c'était pas évident. Et voilà, il est resté à tourner en rond à la maison. Et donc, pendant 4 mois, il y a eu une descente aux enfers parce que il était démotivé de tout. Puis arrive le mois de juillet où je suis en vacances. Et le 26 juillet au matin, j'ouvre les yeux, je sors de la chambre, j'entends la télévision. Et je vois Adèle réveillée. Donc je le laisse, je retourne dans ma chambre. Tout doucement, je me rendors. Et là, un coup de téléphone qui me réveille, c'est la commissaire qui m'appelle. Elle me dit « Est-ce que Adèle est là ?» Donc je descends, je cherche partout, dans la maison, il n'y a personne. Ah bah je lui fais « Il est sorti ». Mais pourquoi tu m'appelles qu'est-ce qui se passe? Après, elle me fait, il y a eu un attentat à Saint-Étienne-de-Rouvray avec une prise d'otage. Je lui dis, mais tu penses que Adèle est impliquée? Elle me fait, je sais pas, je te tiens au courant. Et on raccroche. Et là, c'est l'attente. Et puis on se dit, il a son bracelet électronique, normalement, il devrait rentrer avant 12h30. Et donc on attend midi et demi, puis à midi et demi, on se rend compte que Adèle ne rentre pas. On est tombé de haut, quoi. On est tombé de très haut. Ensuite, il y a eu la perquisition. Ensuite, on est parti avec les policiers. On s'est rendu à Brizeau-de-Barneville pour être interrogé. La policière m'a dit « Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ?» Comme si moi, j'étais accusée. J'ai fait « Moi, on m'a dit qu'il y avait eu un attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray et que mon fils était impliqué. » Elle me dit « Oui, il a tué le prêtre. » Et il est mort. Donc là, à partir de là, moi, j'étais pas là, quoi. J'étais abasourdie, j'étais... Et j'avais aucune réaction. J'avais pas de larmes, rien. Les mois après l'attentat, c'est très, très difficile. On se pose plein de questions. On se demande si on va continuer à vivre, est-ce qu'on va être, on va pouvoir continuer à travailler, continuer à sortir dans la rue sans être pointé du doigt, sans être insulté, est-ce qu'on va pas être lynché sur la place publique. Et je voulais rencontrer les sœurs dans l'église parce que je me disais, elles ont vu ce qui s'est passé, et en même temps pour leur demander pardon au nom de mon fils, de ce qu'il leur avait fait subir, parce que c'était un traumatisme horrible ce qu'ils avaient pu vivre dans cette église. Donc, je voulais absolument leur demander pardon. Mais malheureusement, c'était trop tôt, beaucoup trop tôt. Et un jour, Roselyne m'appelle.
Je suis Madame Amel Roseline, j'ai 84 ans. Je suis la sœur du père Jacques Amel. Il habitait ici, à ce presbytère, rue Lazare Carnot. Cette pièce, c'est sa pièce à vivre, sa pièce principale, où c'est sur ce fauteuil où il faisait ses mots croisés, force 6, il regardait ses infos, et puis c'est ici qu'il écrivait ses homélies. Mon frère était âgée de plus de 10 ans que moi. Il s'est beaucoup occupé de moi, surtout quand j'étais bébé, parce que c'était la guerre. Nous étions fusionnels. On n'avait pas besoin de se parler pour comprendre si quelque chose n'allait pas pour l'un ou pour l'autre. À chaque petite vacance, je venais au moins 8 jours. Et nous avions décidé d'arriver ici avec 3 de mes petits-enfants. Et nous sommes arrivés la veille du 26 juillet, vers 18h. Et le lendemain matin, on l'entend se lever vers 7h moins le quart. Et on se dit, oh, on va pas descendre maintenant, il a l'habitude d'être tout seul. On boira une bonne tasse de café quand il va rentrer. Et puis, une fois qu'on entend le portail grincer, qui s'en va sur le chemin de l'église pour sa messe de semaine, eh bien, nous descendons. Et à un moment, le téléphone sonne. Mon interlocuteur me dit, je suis bien au presbytère de Saint-Étienne-de-Rouvray, oui. Pouvez-vous me certifier qu'il y a une prise d'otage à l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray? Je lui dis, monsieur, qui vous soyez, si c'est un canular, eh ben, je vous félicite pas. Je vais voir mes enfants dans la cuisine et je leur dis, j'ai entendu ça au téléphone. J'ai pris ça pour une blague, mais ça commence à me tourmenter. Donc, je vais aller chercher Jacques à l'église et puis je pars et ma grande fille me dit, je viens avec toi. Et on est arrêté par des militaires et elle nous dit, vous rentrez là. Et vous vous enfermez jusqu'à temps qu'on vienne vous chercher. Et donc, nous rentrons dans le garage des pompes funèbres de cette rue pendant 2 heures adossés aux chambres funéraires, dans le silence. Deux heures se sont passées. Au bout de 2 heures, on nous dit, c'est terminé. Et là arrive une petite jeune femme, toute jeune employée des pompes funèbres. Je la vois arriver en disant, tout est fini. Il y a 2 personnes qui ont été atteintes. L'une est à l'hôpital et l'autre est morte. C'est votre frère. Et vlan. Et j'ai hurlé le nom de mon frère comme si que je voulais qu'il m'entende et puis qu'il revienne et qu'il me rassure. Et à un moment, je me suis arrêtée parce que j'ai ressenti une grande douleur dans ma cage thoracique. Il y a une expert psychiatre qui vient, on s'installe autour d'une table et elle dit, je voulais vous apprendre quelque chose que vous appreniez pas par les journaux. Votre frère a été tué à l'arme blanche. Et je reste impassible et elle me dit, vous savez ce que c'est que l'arme blanche? Je dis, oui, madame, mais ça change rien. Pour moi, ça change rien, quoi. Sur le coup, qu'importe, il est mort et il est mort. Qu'importe l'arme, mais non, c'est beaucoup plus grave que ça. Et bref, donc j'ai demandé à l'infirmière, et il est où mon frère maintenant? Et elle me dit, il est encore sur les marches de l'hôtel. J'ai dit, je peux aller avec vous, je peux aller le prendre dans mes bras. Elle dit, non, madame, j'ai pas le droit. Et en fait, ça m'a peinée encore plus. J'aurais tellement voulu prendre mon frère dans mes bras avant qu'il l'emmène, comme si que je l'accompagnais jusqu'au bout, quoi. C'est resté très pénible pour moi. Alors, une fois rentrée des obsèques, ça a été difficile de se retrouver chacun sous son toit. Moi, du coup, je me suis dit, comment je vais vivre après une telle horreur? Et d'abord, je me disais, ce serait peut-être plus facile, j'avais 74 ans, de me laisser périr tout doucement, plutôt que de souffrir cette douleur sans nom jusqu'à quand? Et puis, je pouvais pas faire ça. J'ai pensé à mes enfants qui, eux, sur place avec moi. Et donc, j'ai pertinemment cherché un sens à ma vie. Et au bout de quelques mois, je me suis posé une question. Qui peut souffrir plus que moi? Et j'en suis venue à avoir une autre réflexion, me disant, mais si c'était moi la maman dont le fils aurait fait cet acte affreux, quelle serait ma douleur? moi qui ai même maman, que j'ai des garçons, je me suis dit, mais bon sang, c'était mon fils qui avait fait ça. Et en plus, sur un religieux. Oh, mais quelle serait ma douleur? Et en plus, avoir les regards méprisants sur soi. Et j'ai tout de suite, me suis mis à la place de Nacera. Et j'ai ressenti la douleur qu'elle pouvait avoir. Et notamment, elle a perdu son fils, mais le sentiment de culpabilité qui est très lourd à porter. À partir de ce moment-là, je n'ai eu qu'une idée, c'est que de trouver le chemin pour la rencontrer. On est revenu ici à la Toussaint. Et puis le journaliste de la mairie est venu me demander comment, depuis ce moment-là, j'avais vécu les choses. Et c'est à ce journaliste que je lui ai demandé, vous connaissez bien cette famille Kermiche? Il me dit, bah oui, 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 bien sûr, on connaît bien cette famille. Et je dis, vous pourriez demander si elle peut, cette famille peut m'accorder de lui parler au téléphone. Il m'a dit, bah oui, je peux faire ça. Donc lui en a parlé à Madame Kermiche, qui a autorisé qu'il puisse donner son numéro de téléphone. Et à partir de ce moment-là, je l'ai appelé pour la première fois en mars 2017. C'était le jour des rameaux. Ça a été très court. Bonjour madame, je suis la sœur du père Hamel. Oui, je sais, elle me dit. Et bien voilà, je voulais communiquer avec vous pour vous dire que nous avons la même douleur toutes les deux. Et que, surtout, ne pensez pas que je vous en veux. J'ai vraiment besoin de communiquer avec vous. Elle me dit, eh bien... moi aussi, et cette conversation était plutôt fébrile, timide, mais avec une promesse de se retéléphoner, mais un petit peu plus longtemps, parce qu'à l'époque, elle était faible, elle était mortifiée en fait, hein. Donc elle s'en excusait, et donc sur ce, je lui ai dit, est-ce que dans un mois, je peux vous rappeler? Et puis, on continuera notre conversation. Et là, s'est instaurée une habitude mensuelle, presque pendant un an, et jusqu'au jour où j'ose lui demander, est-ce que vous me permettriez de vous rencontrer visuellement? Et elle m'a répondu, mais madame, il y a longtemps que je vous attends. Cette rencontre se passe au domicile de Nacera, donc accompagnée de Monseigneur Lebrun. C'est l'archevêque de Rouen. Bien déjà, avant de rentrer, j'avais le cœur qui battait à tout rompre. Je me rassurais auprès de Monseigneur Lebrun en lui disant « Mon idée, elle est bonne, ça va bien se passer, mon père. Oh oui, rassurez-vous, Roselyne, ça va bien se passer. » Et donc là, on a frappé à la porte. Elle a ouvert la porte, elle a ouvert ses bras et en disant... avec les yeux larmoyants, pardon, pardon. Mais j'ai dit, mais madame, je suis pas venue chercher un pardon. Je suis venue pour vous demander s'il était possible de gérer notre douleur ensemble. Parce que notre douleur, elle est la même. Pendant une heure, on a été en communion avec elle, avec ce qu'elle nous a raconté de cette douleur qu'elle nous partageait. Comme si c'était la veille que ça s'était passé. De son vécu avant ce drame avec son fils, cette année de galère. Parce que c'était ça le but de la rencontre, c'est de partager ce qu'on avait vécu ce jour-là. Et les jours suivants, les mois suivants, comment on a fait pour en arriver à vivre avec. On peut pas dire arriver à accepter, parce qu'on n'acceptera jamais ce qui s'est passé. Mais comment on est arrivé à vivre avec. Voilà, on partageait ça. Et tout de suite, ça a été apaisant pour elle et pour moi. Et de là a commencé ce chemin qu'on parcourt encore aujourd'hui ensemble. On s'est revus un jour de Toussaint. J'avais invité Nacera à boire une petite goutte de café rapide. Et à la Toussaint, j'ai l'habitude d'acheter pour mettre sur la tombe de mon frère une bougie. Et j'en avais acheté une dans l'intention que Nasserrin en mette une sur la tombe de son fils. Elle dit, moi, justement, j'avais fait la même chose. J'avais acheté quelque chose pour que vous mettiez sur la tombe de votre frère. En fait, c'était un super beau chapelet. Et puis, je lui dis, vous allez y aller ces jours-ci parce que moi, je reste pas longtemps ici. Hein, je reste que 8 jours. Elle dit, on va y aller tel jour. Je dis, ça vous ennuierait si je vous accompagnais? Elle dit, non. Elle était bien étonnée. Et donc, nous sommes allés ensemble avec ses 2 enfants, qui sont adultes, sur la tombe d'Adèle. Et donc là, j'avais préparé une petite carte en relayant par ma voix le pardon que certainement mon frère leur avait accordé. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que je suis chrétienne, que j'ai la foi. Je dois t'avouer quand même que ma foi a quand même été perturbée. Hein. Si je disais le contraire, je serais une menteuse. Et c'est un besoin vraiment fondamentalement humain que j'avais besoin que cette rencontre se fasse. Et je ne savais pas comment je serais accueillie, mais pour moi, c'était le seul chemin qui allait apporter un sens à ma vie. Et peut-être un sens à la vie de cette dame. Mais on a eu des réflexions de part et d'autre. Pourquoi vous avez été rendre visite à cette famille? Comment vous avez pu, après ce qui s'est passé pour votre frère, aussi bien des paroissiens de toutes parts, même chez moi, hein, Armentières, et puis... des simples voisins, au début, ça leur faisait tout bizarre. Beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi vous dites que cette famille est une victime? C'est vous qui êtes une victime. Ben, je dis non. Non, faut que vous compreniez que le terrorisme a impacté nos 2 familles sur le même lieu, à la même heure, au même instant, et que c'est le radicalisme qui nous a fait victime du radicalisme, toutes les deux, nos 2 familles. Et ça, ils ont eu bien du mal à comprendre. Et maintenant, mes enfants ont été amenés à me dire, tu vois, maman, au début, on ne comprenait pas le sens de ta démarche, mais que ça tienne debout, ça nous suffisait. Mais maintenant, là où tu en es arrivé, avec tes rapports avec Nasserra, tes contacts, tes visites, on a compris ton chemin et on est fiers de toi. Chaque fois que je viens à Saint-Étienne-de-Rouvray, c'est sûr que je vais au moins passer 1 heure ou 2 chez Nasserra. Et puis entre deux, si moi je téléphone pas, c'est Nasserra qui s'inquiète comme si j'étais sa mère en fait. Ce qu'on a vécu toutes les deux, et ben c'est un lien indestructible de douleur, qu'on le veuille ou pas. C'est un chemin en recherche de paix pour soi-même, parce que retrouver sa paix intérieure déjà, on se sent beaucoup mieux. Et puis, ce souffle de vie qu'on croyait perdu, nous l'avons retrouvé. Et c'est une force de vie qu'on a retrouvée et qu'on croyait perdue. À jamais. C'est la première fois que tu restes aussi longtemps. Hein.
Ben ouais. J'espère que le père Jacques me voit là et qu'il accepte que je vienne chez lui.
Tu penses bien.
Moi, je n'osais pas proposer en me disant qu'elle ne va jamais accepter de venir chez moi. Déjà qu'elle m'a appelée, déjà c'est très beau, mais elle ne voudra jamais venir chez moi. Venir dans la maison de la personne qui a fait en sorte que son frère meure, elle ne voudra jamais. Et en fait, si. Mais j'étais très heureuse qu'ils arrivent chez moi, qu'ils viennent à la maison. Et quand j'entends la sonnerie à la porte, j'ai l'impression que ça a explosé à l'intérieur de ma poitrine. J'avais le cœur qui battait tellement fort. Et j'ai raconté tout mon désarroi. J'ai raconté tout ce qui m'était arrivé avant, pendant, après. Et ils m'ont écouté, ils n'ont pas osé me déranger. J'avais besoin de parler avec eux, de leur dire ce qui m'était arrivé, de leur expliquer, de leur raconter. Je leur ai montré des photos d'Adèle quand il était petit. Il était mignon comme tout et c'était une autre personne. C'était quelqu'un d'autre. Je suis allée sur la tombe du père Hamel, une première fois toute seule, parce que je voulais voir un petit peu où ça se trouvait. Donc je suis montée sur Bon Secours, je suis allée au cimetière, j'ai marché, marché, marché. Et à un moment, je suis arrivée à un endroit très abrupt, où il faut descendre des escaliers, et puis après on trouve toutes les tombes des prêtres et des sœurs. Et donc je suis allée là-bas, je me suis recueillie sur sa tombe en lui demandant pardon. Et en lui expliquant que mon fils, qu'il n'a pas été élevé comme ça. Enfin, j'ai parlé toute seule. Je lui ai expliqué, je lui ai dit mon désarroi, je lui ai tout raconté. À chaque petite vacance, pratiquement, on se revoyait. On buvait un café, et on se racontait plein de choses, surtout. Tout sur tout. Notre vie au quotidien, on s'est même découvert plein de choses en commun qui nous rapprochent tellement. Parce que elle a eu 5 enfants, j'ai eu 5 enfants, elle en a perdu un, j'en ai perdu un. Elle avait un mari routier, j'ai un mari routier. Elle a repris des études sur le tard, j'ai repris des études sur le tard. Elle a travaillé dans des associations, j'ai travaillé dans des associations. Elle a un fils qui est chirurgien, j'ai une fille qui est chirurgienne. On a plein de choses en commun. Et petit à petit, grâce à Roselyne, j'ai réussi à revivre. Et du coup, ça vient un peu réparer la douleur et ça vient aussi donner beaucoup d'espoir envers l'humanité, envers l'autre. Parce que Roselyne, elle avait aucun intérêt à venir me voir, à chercher à comprendre. Elle n'était pas obligée et elle l'a fait. Roselyne, elle a trouvé ça pour avancer, pour continuer à avancer. Et elle m'a permis aussi d'avancer avec elle. C'est la plus belle des réparations. I say you're frustrated when I cry. I'm finding out how sacred as time goes by. Process, purify. I am lighter, much lighter.
C'était Roselyne et Nassera, une amitié impensable. Un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Alexandra Candy Longuet. Merci bien sûr à Roselyne Hamel et à Nassera Kermich. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. Tears are medicine. I see you're frustrated. Yeah, you don't cry. You're finding out how sacred. As time goes by. Process. Purify. Look at my eyes and cry with me. Lucky you still do. My eyes misspeak. Let it all out. It's meant to be. Tears are medicine. While it flows and while it pours, I swear. What we are supposed to do. So look at my eyes and cry with me, like we used to do. I ask Miss P, let it all out, it's meant to be. Tears are bad.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.